sans que les élus n'interviennent. Ce sont les habitants qui décident tout seuls de l'investissement de la commune et d'une partie du budget de fonctionnement. Donc voilà, et c'est pas un hasard si la ville de Grigny a été celle qui a initié le réseau national de la démocratie participative qui s'est créé cette année officiellement à Allonne, dans la Sarthe, et qui fonctionne très bien. Et on va proposer un projet, pas un projet, alors je me mélange toujours là, entre le projet de loi et la proposition de loi. Donc on va proposer une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale avant l'été qui concernera la pratique de la démocratie participative en France. Puisqu'on souhaiterait que la pratique s'élargisse, se généralise et soit inscrite, à défaut d'être inscrite dans la Constitution, qu'elle soit au moins inscrite dans la loi pour forcer un certain nombre d'élus qui sont très éloignés de la démocratie participative et parfois de la démocratie tout court, de pratiquer la consultation des habitants. Grigny aussi s'est engagé dans la démarche CitaSlow, donc on a déposé le dossier, on attend la labellisation. On organise toutes les années, si ça vous intéresse, ça sera le 26 octobre cette année, un grand colloque national sur la désobéissance civile. Ça se passe dans ces deux salles-là, et cette année c'est le 26 octobre. Et puis on fait donc nos semi-désobéissants, puisque on échange des graines qui ne sont pas inscrites au catalogue, donc des graines interdites. On soutient Cocopelli, puisqu'on est adhérent à l'association Cocopelli. Et donc ces graines interdites sont cultivées ou vont être cultivées dans le jardin partagé du Vallon, c'est bien ça, hein, puisqu'elles en ont acheté pas mal. Et la ville donc fait des semi-désobéissants sur ses parterres floraux, dans les ronds-points, etc. Et on cueille les résultats de ce semi-désobéissant au mois d'octobre ou au mois de septembre, à l'approche du colloque sur la désobéissance. Que vous dire de plus? On travaille beaucoup sur la préservation des terres agricoles, puisque... au schéma directeur, donc on a tout le plateau et toutes les terres agricoles qui sont déjà figées, mais on va en plus, on est en train de travailler sur une PELAP qui va définitivement figer l'ensemble des terres agricoles de la commune de Grigny et les fermer définitivement à l'urbanisme, parce que nous on est que de passage, on ne sait pas ceux qui vont nous succéder un jour, les idées qu'ils pourraient avoir. Et l'avantage de la PELAP, c'est de figer définitivement, de ne pas pouvoir faire marche arrière. Donc on est très très content de travailler sur ce projet-là. Et puis on travaille aussi à l'accompagnement de l'installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire de la commune, avec la région Rhône-Alpes, avec Terre de Liens, avec le département du Rhône, etc., etc. Donc on fait un travail très très conséquent sur l'agriculture. Et puis on a une réflexion aussi sur le logement coopératif avec Opengerme. On aura peut-être la chance de sortir un immeuble sur le territoire de la commune avec ces gens-là, qui font des choses très très intéressantes. Donc voilà un gros sujet. Et puis j'oubliais les potagers du Garon, quand même. Les potagers du Garon, qui est une association d'insertion qui fait de la culture biologique sur un terrain qui leur a été cédé par la commune. Alors les potagers du Garon, moi j'ai plus la notion du temps, mais je pense qu'il doit y avoir une quinzaine d'années que les potagers fonctionnent. Et ils fonctionnent bien, donc ça fonctionne sur la base de paniers, etc. Ils sont un peu d'abord débordés par les demandes, puisqu'ils n'arrivent pas à satisfaire toutes les demandes. Ça permet l'insertion d'un certain nombre de personnes, pas seulement sur le territoire de la commune, puisque c'est plutôt sur l'agglomération. Et ils font un travail assez exemplaire dans ce domaine-là. La ville les soutient, bien sûr, avec participation de l'État. C'est toujours très difficile quand même. On essaie de faire en sorte que les choses avancent. Et puis, bien sûr, on a interdit la culture des OGM sur le territoire de la commune, mais ça va de soi. voilà, en gros, ce que fait la commune de Grigny dans le domaine de l'environnement, de la protection de l'environnement, du développement des jardins. On a un nombre assez considérable de jardins ouvriers, puisque la ville de Grigny est une ville ouvrière, et on avait la chance d'avoir... pas mal de cheminots sur le territoire de la commune, puisqu'on avait le triage de Badan. Et vous savez que chez les cheminots, le jardin potager, c'était quelque chose qui était indissociable du logement. Donc voilà, on a cette chance-là aussi. Voilà, je crois avoir fait le tour. et vous avoir dit à peu près tout ce qui se passait sur le territoire de notre commune. On pourrait en parler des heures, mais je pense que vous allez être très occupé, donc je vais vous recéder le micro. J'ai oublié mes collègues, puisqu'on a, des élus là, donc on a Jean-Noël Recicot qui est adjoint au cadre de vie du 2e arrondissement de Lyon, qui a des difficultés pour trouver des terrains, faire des jardins, donc ils sont en train d'ensemencer les toits, mais ça ne suffit pas. Et puis Frédéric Faure qui est adjoint au développement durable à Lantilly, là ça pose moins de problèmes, Lantilly, il doit y avoir quand même un peu plus de terre que dans le 2e arrondissement de Lyon. Voilà, donc je voulais saluer la présence de deux élus.
Voilà, ben je voulais vous remercier de votre intervention et vous avez compris pourquoi on avait tellement envie que ça se passe ici. Voilà. Donc je vais donner la parole maintenant à l'équipe d'organisation pour que vous sachiez un petit peu comment ça va s'organiser la journée.
Merci Liliane, merci Monsieur le maire. Donc Catherine Creuse de l'association Pas Jardin, animatrice du réseau des jardins partagés en Rhône-Alpes. Alors je vais être votre guide toute la journée sur le déroulé et on va essayer de vivre une grande aventure ensemble. Voilà. Donc les assises nomades de Rhône-Loire, utopie et utile. Des jardins partagés pour nos territoires. Voilà la thématique qui va nous parcourir toute la journée. Alors, on va revenir un petit peu comment sont arrivées les assises. Dans le cadre du réseau des jardins partagés de Rhône-Alpes et du projet associatif de l'association de Pas Jardin, qui est animateur du réseau des jardins partagés, il était décidé d'organiser des assises afin de créer un espace de rencontre plus large que le réseau des jardins partagés. S'appuyer d'assises nomades pour faire des assises régionales des jardins partagés une force. Voilà, ça c'était la grande finalité que nous nous donnons. C'est aussi provoquer la réflexion et l'échange entre nous, mais aussi avec les autres partenaires d'aujourd'hui et de demain. Se fixer un objectif pour produire, s'enrichir et grandir ensemble. Donc les acteurs que nous interpellons pour organiser ces assises, ce sont les ISU, les décideurs liés à la mise en place des jardins partagés, et les structures de jardins partagés, et les jardiniers et leurs représentants. On voulait vous présenter aussi un peu notre association Le Pas Jardin, parce que tout le monde ne nous connaît pas. Donc nous sommes une association qui s'est créée en 1998 et son but c'est de cultiver partout, avec toutes et tous, des utopies jardinières, créatrices de liens coopératifs avec la terre nourricière et les êtres vivants pour construire une société plus juste. Et l'action du Pas Jardin s'appuie sur une démarche participative. Chaque projet est écologiquement conçu, construit et cultivé collectivement avec les habitants. Et les valeurs du Pas Jardin sont la solidarité, l'échange, la mixité sociale, citoyenneté, lien social, respect de l'environnement et intégration paysagère des jardins. Le premier lancement des assises se sont faits il y a presque un an au salon Prime Vert, puisque nous avons un stand tous les ans. Nous rencontrons tous les acteurs des jardins partagés et toutes les gens de la région. C'est le moment de rencontre annuel. Et voici le premier flyer que nous avions diffusé à l'époque, des assises des jardins partagés, pourquoi faire? Et si les jardins partagés étaient des utopies qui ne demandent qu'à éclore, alors il faudrait qu'on se le dise. Et on commence vraiment à se le dire, ça y est, ça commence. Alors, elles ont commencé les assises, et les premières assises c'était avec les départements de l'Ardèche et la Drôme, et c'était le 6 octobre. Nous avions une soixantaine d'inscrits, très peu d'élus, que les élus de la ville de Valence, beaucoup de jardins, voilà. Ensuite, c'est fait les assises des pays de Savoie, Haute-Savoie et Savoie, le 27 novembre. Donc nous avions 43 inscrits, là il y avait 23 structures jardins, il y avait 5 communes représentées, le CAUE, du département 73, et des jardins familiaux, qui est avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes sur les assises nomades, donc les troisièmes assises nomades, Rhône-Loire. Alors, je ne sais pas combien on est d'inscrits, mais je vous le dirai tout à l'heure, elles vont venir me le dire, et qui sont présents, combien il y a de jardins présents. Voilà. Et les prochaines assises seront pour l'Isère et l'Ain, le 2 février, à l'hôtel de ville de Grenoble. Et puis après, il est prévu de se rassembler tous ensemble pour des assises régionales. Donc on avait prévu le 12 avril, mais c'est une date qui va certainement être revue. On essaie de la maintenir, mais ça ne va pas être évident. En tous les cas, ça se passera au printemps 2013. On se retrouve tous à ce moment-là. Et ça va se passer au Conseil régional Rhône-Alpes à Lyon. Alors, aujourd'hui, nous avons un beau programme. Nous allons échanger ensemble sur les problématiques des jardins partagés. On va favoriser et multiplier les initiatives de demain. On va soutenir la dynamique du mouvement des jardins partagés. Élus, techniciens de collectivité, bailleurs, architectes, acteurs sociaux et amateurs de jardins, venez mettre votre grain de sel dans le débat. Alors, j'espère que vous avez amené votre sel avec vous. Hein ? Mais je l'espère, ça va être sûr. Un beau programme, donc on va... ça. Donc déjà, on voudrait remercier le comité de pilotage qui a permis que ces assises Rhône-Loire se réalisent. Donc il y avait pour le Rhône, il y avait plusieurs associations, la Légumerie, Brindeguille, Réseau Santé, la MJC Perrache, Jardin Suspendu, Lopins Urbains. Donc ce sont des associations de jardins sur la ville de Lyon. Ensuite, on a eu Côté Jardin, d'État Saint-Lin-Milune, la ville de Lantilly, la ville de Lyon, et l'espace créateur de solidarité de Saint-Fond. Et pour la Loire, on a eu le Jardin éthique et Jardin du pain de Saint-Paul-en-Jarry. C'est partage au pain maintenant, c'est plus Jardin du pain. Ils ont changé de... Et puis avec ça, il y avait donc nous, le Page Jardin, qui est l'animateur du réseau, donc l'association Page Jardin. Donc il y avait Liliane Ménry, que vous aviez vu tout à l'heure, Clotilde de Vienne, une adhérente, et puis dans les salariés, donc Émilie Bonjean, elle est où, Émilie, qui nous a tout organisé, qui s'est servi sur la logistique. Elle doit être derrière, voilà. Émilie, oui, on peut l'applaudir, ouais. Je ne sais pas si elle nous entend. Et Catherine Cruz, moi-même, voilà. Alors, nous tenons à remercier... Voilà Émilie, voilà Émilie. Alors, nous tenons à remercier les financeurs, la région Rhône-Alpes, la communauté urbaine du Grand Lyon, la ville de Lyon, le département du Rhône et la Fondation Bruno. Je ne sais pas si vous connaissez la Fondation Bruno, c'est un fournisseur de bureautique, voilà, et qui finance à travers la Fondation de France des Jardins. Voilà. Et surtout aussi à la ville de Grigny qui nous a mis à disposition ses locaux, donc l'amphithéâtre ainsi que la salle derrière, grâce au président de l'association des centres sociaux et culturels de Grigny. Donc vous êtes, monsieur, je n'ai pas retenu votre nom, monsieur Servola, voilà, Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre, elle a vraiment, vraiment appuyé pour qu'on ait ces lieux, ainsi que sa directrice. Merci, merci au centre social. Aujourd'hui, nous sommes 80 participants maintenant. Il y a 32 associations jardin. Il y a 16 communes représentées. Il y a un monsieur bailleur, le bailleur Aliad, non ? Il est là ? Deux dames de Aliad. Voilà, merci. 16 personnes individuelles qui sont... Si, voilà. 16 personnes individuelles qui sont intéressées par les jardins. Et 7 associations, centres sociaux et MJC. Voilà, et nous avons 4 élus présents dans la salle. Merci à tous. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, les assises nomades du Rhône-Loire. Donc, les objectifs qui s'étaient donnés le collectif, c'était d'informer, sensibiliser, faire connaître les jardins partagés, en particulier aux élus et décideurs. C'était d'identifier les problématiques, les difficultés rencontrées pour faire avancer les projets. Recueillir des idées, des propositions pour alimenter les assises régionales et rédiger un plaidoyer. Donc le programme de la journée. Donc vous avez eu un accueil jusqu'à 10h. Maintenant, il y a eu les ouvertures des assises. Je vais vous présenter aussi ce que c'est que les jardins partagés et le réseau des jardins partagés. Et après, nous partirons, finirons la journée dans l'aventure des utopies jardinières. Nous aurons 6 témoignages. Puis, à 11h45, il y aura le lancement du potage d'idées. Venez mettre votre grain de sel dans le débat. À midi, repas partagé, ensemble. Et cet après-midi, il y aura la présentation du diagnostic des jardins partagés de Rhône-Alpes par le cabinet Argos. avec un focus sur le Rhône et la Loire. Et dans l'après-midi, nous passerons une partie de l'après-midi à être dans le potage d'idées. Donc, ça va être des ateliers simultanés, d'échanges participatifs, débats sur la collecte d'idées du matin. Voilà. Et nous finirons par une centaine de la journée. Et surtout, restez pour le pot de l'amitié. Nous avons prévu des choses intéressantes. Voilà. Donc, vous êtes au moins là jusqu'à 18h, au moins. Alors, je vais revenir un peu dans l'histoire. Comment sont venus les jardins partagés en France? Les premiers jardins qui sont apparus, c'est en 1894, grâce à deux ecclésiastiques qui étaient députés à l'époque et qui ont réussi à convaincre l'Assemblée nationale à ouvrir des parcelles de terrain, qui se sont appelées les jardins ouvriers, des lopins de terre, comme ils appelaient ça à l'époque, pour des gens qui venaient du monde rural et qui venaient travailler à la ville. Donc depuis, ça a beaucoup évolué. Ça s'appelle maintenant les jardins familiaux et collectifs. En dehors de notre continent, il y a eu les graines guérillas. Alors, c'est dans les années 70, du côté de New York, il y a eu beaucoup, beaucoup de friches urbaines, des bâtiments démolis. Et les habitants en ont eu marre de voir ces terrains en friche, avec des immondices. Ils ont nettoyé, ils ont lancé des bombes de graines dans ces terrains. Et sont appelés les Green Guerillas. Et depuis, s'est créé des jardins communautaires dans ces espaces. Et actuellement, il y a à peu près 600 jardins sur New York, jardins communautaires. Et ça s'est énormément développé dans toute l'Amérique du Nord. Fort de cette expérience est né le réseau national qui s'appelle le Jardin dans tous ses états. Grâce à la Fondation de France, elle a proposé des associations françaises et d'environnement, grâce à Sophie Bernier, de partir à Montréal et de rencontrer ces nouvelles formes de jardins. C'est là-dessus qu'est née la mouvance du premier forum national Jardinage et Citoyenneté, où il y a des Lyonnais qui se sont rendus à l'époque et qui ont, grâce à ça, créé l'association de Page Jardin, et qu'est né le réseau français, le jardin dans tous ses états. Actuellement, nous sommes 10 régions à développer le jardin partagé sur tout le niveau national. Et je peux vous dire que la région Rhône-Alpes est la plus active, avec la Bretagne. Là-dessus a été écrite une charte qui s'appelle « La terre en partage ». Vous pouvez en trouver des extraits sur le lieu d'exposition qu'on a prévu dans la deuxième salle. Vous verrez ça à midi, vous pourrez découvrir tout ça. Voilà. Donc, à partir de là, la Fondation de France, en 1997, a lancé un appel à projet qui s'appelait « De nouvelles structures à cultiver ensemble pour développer les jardins partagés ». C'est comme ça que le mouvement est né et que les choses se sont mises en place. Voilà. Maintenant, on va arriver à comment est né le réseau des jardins partagés en Rhône-Alpes. Donc, il est financé et soutenu par le conseil régional et par la communauté urbaine du Grand Lyon. Il est né en 2005. Et là, pour objectif de mutualiser, créer des échanges, soutenir les initiatives locales, représenter la dynamique des jardins partagés. Donc, les jardins partagés sont inscrits dans un maillage de réseaux qui se définissent par leur territoire au niveau donc, national, le jardin dans tous ses états, qu'on dit JTS, régional par l'animation du pas jardin au niveau de la région, mais aussi au niveau local par des réseaux qui s'organisent ou se juxtaposent en réseaux territoriaux. Alors, l'animateur du réseau Le Pas Jardin, il a comme but de répertorier l'ensemble des jardins collectifs de la région Rhône-Alpes. Donc, nous avons sur le site un annuaire des jardins qui est actuellement boosté par une service civique. Elle est là, Louise? Elle n'est peut-être pas ici. Ah, voilà, Louise qui a monté un stand, vous verrez tout à l'heure à partir de midi, avec toutes les fiches jardins qui ont été répertoriées sur le Rhône et la Loire sont affichées dans l'autre salle. Vous irez voir votre jardin. Et ceux qui n'y sont pas, ou si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas sur la fiche, vous irez rencontrer Louise et vous lui ferez part de vos observations. Voilà. Donc, à l'instant, elle vous mettra ça. Donc, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Donc, on organise des événements, entre autres les assises, mais aussi la fête du printemps, la fête de l'automne. On propose que les jardins s'inscrivent dans les rendez-vous des jardins. Et nous organisons au mois de juin, souvent au mois de juin, un voyage du réseau où nous partons tous ensemble voir des beaux jardins. Cette année, c'est le 8 juin. Voilà, samedi 8 juin. et on valorise les jardins au travers du site. Voilà, alors les jardins repérés, actuellement on en a repéré 319 dans la région Rhône-Alpes. Donc il y en a en jardin partagé, il y en a 170, en jardin familial 109 et en jardin d'insertion 39. Et donc là on va faire sur ce. Et alors, on va faire un focus dans le Rhône. Il y en a 116 de jardins dans le Rhône, 59 jardins partagés, 6 jardins d'insertion et 51 jardins familiaux. Et dans la Loire, vous êtes 15, il y a 14 jardins partagés, 1 jardin d'insertion et 0 jardin familial. On sait que c'est le département où il y en a le plus de jardins familiaux. Donc, il va falloir qu'ils se fassent connaître et qu'on les répertorie. Dans la Loire, il va falloir... Pierre Bonnet. D'accord. Eh bien, on va essayer de rectifier ça. Alors, on va revoir qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé. Là, j'ai des photos qui sont de jardins qui sont dans la Loire et dans le Rhône, qui vont témoigner tout à l'heure. Alors, nous faisons partie de la grande famille des jardins collectifs. Ça, c'est des qualités. L'appellation jardin collectif fait référence aux jardins familiaux, aux jardins d'insertion et aux jardins partagés. Et ça, ça a été dans un projet de loi avec le Sénat en 2003. Voilà, donc nous, on est resté là-dessus. Donc les jardins familiaux, on entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectés par les collectivités territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial, entre autres dans un but pédagogique ou de formation au jardinage. Certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales par convention conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales ou les associations de jardins familiaux. Voilà. Les jardins d'insertion, on entend par jardin d'insertion, les jardins créés ou utiliser en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées à ces personnes à titre temporaire. Et on entend par jardin partagé les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelle ou éducative et étant accessible au public. Voilà ce qui a été discuté. Les jardins collectifs contribuent à la sauvegarde de la biodiversité, des plantes cultivées, fruits, légumes, fleurs, en favorisant leurs connaissances, leur culture, leurs échanges non lucratifs entre jardiniers. Donc un jardin partagé est avant tout un projet. Et les principes soutenus sont la diversité des objectifs, qui contribue à la richesse des projets, la diversité des publics et des usages, par la rencontre, les échanges et l'entraide, la concertation pour impliquer, l'aménagement qui tient compte du besoin des jardiniers, la gestion participative, l'animation pour la pérennisation et l'évolution, le respect de l'environnement et l'intégration paysagère des jardins. Et ça, vous le retrouvez dans la charte de la terre en partage. Et alors, les jardins partagés rentrent dans le développement durable avec les 4 grands piliers, souvent on parle économique, social et oriental, mais nous on en met un quatrième qui a son importance, c'est la gouvernance démocratique. Voyez ce que ça peut développer en économique, autoproduction, revenus complémentaires, ça a été évalué avec les jardins familiaux à 13e mois pour les salariés les plus modestes, l'aménagement et fonctionnement moins coûteux que les espaces verts classiques, tout ce qui est social, public, intergénérationnel, interculturel, tous les milieux socioculturels, présent sur tous les territoires. En environnement, ça valorise le terrain inoccupé, c'est une intégration à la trame verte, ça valorise la biodiversité, les corridors biologiques. Il y a la charte du jardinier amateur éco-responsable et c'est un lieu d'éducation de la pratique à l'environnement. Et tout ce qui est gouvernance démocratique, c'est la co-construction d'habitants volontaires et collectivités locales. C'est un lieu de démocratie participative et c'est là qu'on prend des décisions collégiales avec les jardiniers dans un cadre défini. Les jardins partagés sont écologiquement conçus, conçues, construites et cultivées collectivement par des habitants d'un quartier ou d'un village. Ça, c'est une phrase qui a été construite avec le temps, avec les jardins partagés sur la région Rhône-Alpes. C'est pas le pas jardin qui la sort, c'est une construction commune. Et donc, un jardin partagé est un jardin ouvert, mais néanmoins clôturé. Mais des fois, il n'y a pas de clôture. Et chaque jardinier a une clé. Dès que l'un d'eux est présent dans le jardin, il ouvre le jardin public. Ce ne sont pas des lieux fermés. Voilà. C'est très important. Donc, les jardins partagés de Rhône-Alpes, il y a plusieurs formes de jardinage qui se combinent souvent sur un même jardin. Voilà. Le jardinage partagé prend donc de multiples facettes qui sont les reflets des personnes qui le pratiquent. Donc, personnes en situation de handicap, en difficulté de vie, habitants, enfants. Par ailleurs, la grande diversité de ces jardins, pieds d'immeubles, terrains en friche destinés ou pas à être bâtis, pieds d'arbres, rues, combinés aux différentes raisons de jardiner, autoproduction de légumes, rencontres, convivialité, complètent cette physionomie. Donc, vous avez le jardinage collectif d'habitants, le jardinage en pied d'immeuble, le jardinage nomade ou éphémère, le jardinage collectif à vocation sociale. Il y a le maraîchage collectif, le jardinage pédagogique et le jardinage adapté. Mais on peut aussi en inventer d'autres. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que les jardins partagés ainsi que le réseau. Maintenant, on va passer aux utopies jardinières. On va avoir des témoignages, 6 témoignages qui vont arriver. Donc, on va voir l'association Brindille, qui se trouve à Lyon. Côté jardin, Tassalane Milune. Jardin des Pentes de la Croix, le Lyon 1er. Jardin partagé de Laval de l'Antilly. Jardin éphémère de Saint-Étienne. Et partage des pins de Saint-Paul-en-Jarret. Donc, je vais laisser Marc Courgeois animer les utopies jardinières.
Bon, donc les jardins qui sont proposés de témoigner vont présenter un peu la diversité des projets, la richesse des projets sur les territoires du Rhône et de la Loire. Donc on a changé un peu l'ordre de passage, parce que le verglas a retardé certains. Donc on va commencer par le projet du côté jardin.
Bonjour, voilà, nous sommes les jardinières de Côté Jardin, membres de la commission animation et on a eu envie de participer à ces assises partagées. Voilà, on va vous présenter Côté Jardin sous forme d'une recette.
C'est la recette de Côté Jardin, élaborée, testée et approuvée depuis une génération. Prenez un hectare de terrain à Tassin, en bordeur du ruisseau, le Ponterle. Réunissez 110 familles. Faites-les suer chaque dimanche, en toute saison, en plein air et sous les serres, sous la spatule du jardinier. Faites-les revenir 6 fois par an pour semer, désherber, planter, amender, récolter, peser, calculer, mettre en sac, incorporer un peu d'huile de coude, verser le tout dans leur panier, verser le tout dans leur panier, de 50 légumes variés bio de saison, réservez-les autour d'une auberge espagnole, d'une fête de Saint-Jean et d'automne. Convivialité. Mélangez-les avec des marteaux, des clous, des planches.
Marteau, clous.
Vous aurez des toilettes sèches, un cabanon, des panneaux solaires. Assaisonnez d'une huile de noix mondée tardivement à la veillée, ajouter une cuillère de miel du rucher des adhérents.
Voilà pour le rucher, pour qu'on puisse protéger.
Faites sauter les enfants avec une pincée de pédagogie de l'animatrice.
Alors c'est par terre, là, la pédagogie, c'est un jeu de loi.
Faites-les arroser leur jardin en carré.
Voilà l'eau du ruisseau.
Servez au conseil d'administration avec du sel. Dégustez sans tarder.
Et avec tout ça, tous les adhérents vont nous exprimer un petit peu leur parole après avoir passé à différents moments, et en particulier pendant 25 ans, et ils sont nombreux à s'être succédés. Et voilà leurs commentaires.
J'ai testé la recette, mais c'est trop contraignant de venir chercher le panier tous les dimanches et de cuisiner trop de légumes d'un coup.
Oh. Excellent, mais ce dimanche d'août, on n'était pas assez nombreux et je suis sur les rotules.
Cette recette est savoureuse grâce à l'engagement des adhérents.
Tous les ingrédients sont frais, bio et cultivés dans une pratique respectueuse de l'environnement. À conseiller. Merci.
Merci.
Et la recette, parce que les adhérents ont créé un jardin de recettes qui s'appelle les légumes passent à table.
J'ai oublié de préciser, donc on va faire une séquence de 3 témoignages et ensuite il y a un temps d'échange pour que vous puissiez poser des questions sur ces projets-là précisément. Donc on continue avec le projet de Brinde-Guille à la Guillotière sur Lyon.
Bonjour, Evelyne Bonnet, l'association Brinde-Guille à Lyon dans le 7e. C'est une association de jardins citoyens qui émane d'un projet d'habitants. Il y a 2 paramètres dans ce projet. Il y a à l'origine un jardin qui est un jardin d'artistes qui s'appelle L'Élo d'Amaran, qui a été créé en 2003 par un artiste qui s'appelle Emmanuel Louis Grand, que vous voyez ici. En fait, c'est un. Il faut resituer l'affaire dans ce contexte. C'est un quartier en grande dégradation, on va dire. Excusez-moi, je vous ai brouti les oreilles. Non, ça va là. C'est un quartier qui est frappé d'alignement depuis les années 30, donc beaucoup de délaissés, beaucoup de friches. Ça couine, hein. Là, ça couine. Si. Beaucoup de friches. Vous m'entendez? Donc beaucoup de friches, d'espaces délaissés en fait qui sont régulièrement investis par des immondices en fait depuis assez longtemps. Aucun renouvellement de beaux, enfin voilà, une situation en fait qui laisse place à la création et à l'implication citoyenne. C'est un milieu hyper urbain dans une zone de hyper centre-ville. Il faut savoir qu'on n'est pas loin, paradoxalement, de la place Bellecour. Il suffirait de traverser le pont en fait. C'est un environnement donc très minéral. Donc ici, du coup, par le fait, certains habitants ont trouvé l'occasion de s'exprimer sur ces espaces qui sont finalement assez permissifs, puisque bon, finalement personne ne s'intéresse tellement peu à nos gouvernances que finalement s'est développé. Beaucoup de projets se sont développés, beaucoup de projets dans un esprit de démocratie participative et d'action citoyenne spontanée beaucoup. Ce jardin est devenu un outil d'expérimentation sociale qui a servi un petit peu d'incubateur à beaucoup de projets autour de l'économie sociale et solidaire, l'écologie, beaucoup, le spectacle, l'art, le jardinage, qu'on essaye de préserver au milieu de tout ça quand même. C'est la nécessité jardinière qui a déclenché en fait à l'origine certainement cette spontanéité parce liée au fait qu'on a besoin de gens pour jardiner. Donc du coup ça devient très habituel de voir des gens dans la rue qui s'activent en fait sur le paysage urbain, qui s'activent dans les rues, qui s'activent sur les trottoirs en fait, puisque on a aussi un projet qui s'appelle les petits brins urbains avec les espaces verts de Lyon. Donc on jardine assez régulièrement dans les rues et les micro-espaces de tout type en fait, qui sont parfois même jusqu'à la faille, puisqu'on affectionne quand même particulièrement la plante sauvage, qu'on bichonne aussi, quoi, voilà, dès qu'elle pousse même, on ne lui a pas demandé de pousser, voilà, on est accueillant. Excusez-moi, faut que j'en... Donc là, vous voyez toute une série de photos sur... C'est un espace qui autorise beaucoup la participation, donc, et qui interpelle beaucoup. Il y a beaucoup d'effets rassembleurs autour de cette position centrale du jardin. Donc ça déclenche beaucoup de choses autour. Donc l'ambiance est plutôt assez... on va dire concentré autour d'un militantisme assez généreux, participatif et éco-citoyen. Puisque j'ai pas entré. Donc ici, la participation fait partie du décor. On peut dire que le jardinage a initié. Autoriser cette présence humaine un petit peu partout, même sur des espaces où on nous disait au début vous n'avez pas le droit de vous trouver là, donc faire des trous sur les trottoirs, alors qu'on l'a fait tout à fait en convention avec les espaces verts. C'est sont des espaces un petit peu où on s'est autorisé des choses qui n'existent pas ailleurs, puisqu'il y avait ici un espace permissif en fait autour de, qui était propice à l'expérimentation. C'est un quartier qui est, ça a son importance, c'est un quartier qui est en transition, on va dire, mais pas dans le sens réel du terme, en urbanisme, et au sujet, ça concerne aussi peut-être une transition sur la question de la population qui fréquente ce quartier. Qu'est-ce qui peut changer le jour où on va tout refaire, puisque c'est actuellement le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait préserver actuellement. Donc on a remarqué qu'il y avait une tellement grosse implication des citoyens autour de ces jardins que finalement pendant la concertation pour réhabiliter le quartier, on s'est trouvé avec des concertations de 300 personnes en fait, des endroits où il y avait vraiment une grande implication citoyenne sur le devenir de du quartier en général. Et ce qu'on aura gagné, je pense, là, c'est le fait que les jardins vont rester, peut-être pas sous cette forme, mais en tout cas sous sa forme participative sur l'espace public. Je vais finir sur une phrase d'un adhérent que je trouve assez... un adhérent, c'est plus qu'un adhérent, c'est quelqu'un qui a ça dans la peau, qui s'active énormément. C'est Pierre, en fait, il me dit, s'il y a une sorte d'utopie qui se résumerait par « Ici, je cultive mes tomates, mais c'est toi qui les manges. » C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'expérimentation et dans la discussion, dans l'affrontement, dans la controverse. Et depuis 2003, bon an, mal an, le jardin a toujours existé. C'est une sorte d'organisme vivant qui existe là, qui se diffuse, qui des fois qui est en veille, voilà, parce qu'il y a des moments où il y a moins de personnes concernées, et des fois qui explose, voilà. C'est un joyeux, donc il a dit bordel, c'est un joyeux bordel, mais ça fonctionne toujours, même si le jardinage est un bras effacé devant l'aspect festif et initiative citoyenne. Voilà, donc le jardinage, c'est aussi une lutte, c'est quelque chose à essayer de préserver, et c'est pas simple, mais c'est la
le principe fondateur de cette expérience, d'où découle toute une vie de quartier. Merci.
Merci. C'est un projet qui montre en lui-même la diversité des activités qu'il peut y avoir en son sein. On continue avec le jardin de Monty.
Donc, Frédéric Faure, je suis adjoint au développement durable de la commune de Lantilly. Donc, la commune de Lantilly se trouve à 20 km au nord-ouest de Lyon. C'est une commune semi-urbaine, beaucoup de maisons individuelles, très peu de bâtiments collectifs. Donc, mais avec la mise en place de notre PLU donc, il y a 2 ans, donc, le fait de densifier donc, notre développement, donc, on doit venir, créer plus de bâtiments collectifs. Bonjour. Donc notre projet a démarré donc en mai 2011, donc par deux réunions publiques, et donc, au bout de ces deux réunions publiques, on a fédéré une dizaine de personnes intéressées pour monter, créer ce jardin partagé. Et donc après, on a fait X réunions avec l'aide de Page Jardin, donc d'Emilie, pour constituer l'association, donc une association de type collégial, donc 4 collèges. Nature, administratif, matériel et production. Et on a fait pas mal de réunions. Donc on a essayé d'avoir un consensus par rapport donc, aux objectifs de la commune. L'objectif de la commune, c'était de dire on crée un jardin partagé pour montrer comme quoi on peut jardiner bio et obtenir des légumes sans l'aide de produits phytosanitaires. Et pouvoir aussi rassembler des personnes pour essayer de travailler collectivement. Du fait qu'on est une commune semi-urbaine, où les jardiniers sont plutôt de type individualiste dans leur jardin, et en plus leur jardin bien caché derrière leur haie. Nous, ce qu'on a voulu montrer dans le jardin partagé, c'était un lieu ouvert à tout le monde. Voilà. Et je dirais que ce projet-là donc, a été donc, mené de main de maître par Audrey Giraud, donc, qui est chargée de mission environnement, qui est à côté de moi. Voilà. Et donc là, on va vous montrer une petite vidéo donc, qui montre le côté environnemental.
Nous sommes ici à Lantilly, commune de 5300 habitants, dans le département du Rhône, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Nous sommes très exactement ici, sur la parcelle du jardin partagé, qui a été créé à l'initiative de la commune en 2012. Alors, pour vous présenter un petit peu cette parcelle, c'est un jardin de 4000 mètres carrés, avec des parcelles individuelles et plus loin, des parcelles collectives. Bonjour Monsieur le maire.
Bonjour Audrey.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de créer ce jardin partagé sur le territoire de Lantilly?
Lantilly est une commune périurbaine où se côtoient des gens habitués à la nature et puis d'autres qui la découvrent. Notre collectivité est très attachée à tout ce qui concerne l'environnement, la protection de cet environnement qui est si agressé aujourd'hui. Donc il nous a semblé de bon aloi de créer ce lieu où les gens expérimentés en jardinage, les gens tout à fait débutants se côtoyaient. Et donc nous avons créé cette association qui permet à certains de découvrir l'agriculture bio, puisque évidemment le bio est obligatoire ici, et puis les gens qui sont expérimentés. Et voilà, ce jardin partagé a un an d'existence maintenant, et tourne déjà avec bonne humeur. Beaucoup de dynamisme.
Très bien. Et pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire si vous seriez prêt à créer un deuxième jardin partagé?
Alors là, c'est la demande. On a encore quelques places dans le jardin partagé pour les nouveaux habitants et les nouveaux intéressés. Mais il est évident que la plus belle réussite de ce jardin partagé, c'est de faire arriver une nouvelle demande de jardin partagé. Il nous suffira de trouver un terrain, mais ça serait un plaisir et une réussite pour cette première expérience au jardin partagé.
Très bien, merci.
Au revoir, Audrey.
Comment vous faites pour sensibiliser les débutants jardiniers à utiliser ces méthodes naturelles?
Il y a la moitié du jardin qui est jardiné collectivement. Et donc on a des séances, un prévu ou imprévu, on se retrouve, on jardine à plusieurs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jardiniers plus expérimentés que d'autres, qui donc naturellement expliquent la façon de faire. mais c'est un très bon moyen pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce métro. Et les premiers samedis de chaque mois, on organise un petit déjeuner. Et c'est un moment où on jardine ensemble, on décide de nouvelles plantations, etc. On a le temps de discuter. Et puis en jardinant à plusieurs, ceux qui sont plus expérimentés vont pouvoir expliquer de nouvelles façons de faire. On a exclu tout produit de traitement chimique, de synthèse, voilà, tout ce qui est autorisé à l'agriculture biologique. Et ben, pour traiter les petits soucis qu'il y a eu, les insectes, les insectes, on a fait des pulvérisations de pur amorti, on a essayé des infusions de tanaisie aussi. Alors, on fait des composts, donc on récupère tous les déchets végétaux pour faire ce compost. Ça permet de conserver les matières organiques. On peut l'utiliser aussi bien en incorporant dans le sol qu'en paillage. L'intérêt du paillage, ça va être de conserver le sol toujours couvert.
Alors Noël, tu es responsable du collège Nature de l'association Les Jardins Partagés de Laval. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu les aménagements que vous avez décidé de mettre en place pour favoriser la biodiversité sur le jardin et me dire pourquoi vous les avez mis en place?
Dans ce coin-là, précisément, on n'a rien aménagé, justement, on a fait exprès. On a laissé toute cette partie en friche. On a fait la mare, évidemment, c'est pas une mare naturelle. Hein. Mais on a laissé les sols, on n'a rien taillé et on laisse le plus possible les choses se faire toutes seules. On intervient le moins possible, justement pour attirer le plus de petits animaux, des oiseaux, des hérissons, qui nous aident à nous débarrasser des petits parasites, hein, des limaces, des chenilles. Je crois que c'est indispensable hein, pour jardiner d'une manière plus écologique. La mare aussi, elle attire plein de petits animaux. Alors, s'il n'y a pas de poissons, on laisse les animaux venir tout seuls, on n'a rien amené. Et les plantes qui sont là sont uniquement des plantes de la région. Hein. La première chose à faire dans un jardin biologique, c'est récupérer l'eau de pluie. Donc là, il y a une grosse cuve qui est enterrée et on récupère l'eau de pluie par l'intermédiaire des petites gouttières hein, de chaque côté de la cabane. On la récupère avec une pompe, une petite pompe manuelle. Alors là, c'est la parcelle de plantes aromatiques. C'est absolument indispensable dans un jardin, hein, d'abord pour l'utilisation des plantes aromatiques, mais aussi parce que ce sont des plantes qui repoussent les parasites. Hein. Ce sont vraiment des plantes médicaments pour les potagers. Et l'important, c'est d'avoir un réservoir de plantes aromatiques pour que les jardiniers en prélèvent et en mettent dans leur parcelle. Là, nous avons fait une petite parcelle de plantes sauvages, naturelles, qu'on trouve dans la région. Je pense que c'est important d'abord parce que ça attire toutes sortes de petits insectes qui vont permettre de polliniser plus facilement les plantations, mais aussi pour montrer aux gens que les fleurs sauvages peuvent être très belles et qu'ils peuvent en planter dans leur jardin, qu'elles ne demandent aucun entretien, qu'elles se reproduisent toutes seules. C'est souvent aussi des vivaces qui repoussent toutes seules. Où nous avons semé de la facélie, c'est un engrais vert et il y en a d'autres, hein. Il y a la moutarde, le butrate, etc. Ça permet de couvrir la terre et tout l'hiver et ensuite au printemps de se servir de cette plante pour l'enfouir et faire de l'engrais.
Là, vous avez la
belle
culture.
Vous
voyez, donc c'est celle-là.
Donc on va essayer de
lancer un débat avec les trois témoignages. Alors, à chaque fois que vous prenez la parole, on vous demandera de vous présenter et dire d'où vous venez, pour qu'on puisse un peu vous situer. Voilà. Alors, il y avait Jardin de Laval, il y avait Branking et Côté Jardin. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça?
Jean-Noël Récicot, je suis un élu du 2e arrondissement de Lyon. Donc, évidemment, c'est l'hypercentre. On aimerait bien avoir comme Lantilly le jardin de Laval. Mais ce n'est pas possible, même avec les délaissés de la ZAC Confluence aujourd'hui. Simplement, moi, je veux dire que dans le cadre de ma délégation, j'organise au mois de mars, le 30 mars, la 3e édition de la journée éco-citoyenne. Nous souhaiterons étendre un petit peu notre assortiment d'actions. Et cette année, nous aimerions faire une initiation au compostage. Est-ce que dans vos jardins partagés, dans vos jardins, vous faites déjà du compostage pour les trois jardins qui ont été cités?
À Lantilly,
oui. D'accord. Tassin aussi. Et l'îlot d'Amarante?
Lyotière aussi, je crois. Oui, parce que vous avez les compostiers qui...
Les compostiers, donc je vous avais dit, on est un environnement avec des friches, donc ils se sont installés sur une friche carrément.
On va prendre contact avec vous.
Voilà. Donc il y a un compost qui est actuellement énorme, et donc c'est un grand succès. Le périmètre est particulier, comme je disais, c'est délaissé, donc ça permet aussi beaucoup de choses. Et actuellement, ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent répartir des lieux de collecte, parce qu'on a un lieu de collecte qui est très très gros. Et l'idée, c'est de gérer la question de la proximité pour les gens qui déposent leurs épluchures. Donc non, un projet intéressant.
Non, on veut le compostage par appartement. Le compostage de l'immeuble, et puis le compostage, si vous voulez, quartier. Voilà, nous l'aurons dit.
Thierry Boutonnier, secrétaire de l'association des compostiers, mais aussi du projet Prenez Racine à Mermoz, qui a intégré dès le début un cycle vertueux qui comprend donc forcément la décomposition des déchets organiques, inévitable si on veut faire... travailler avec le vivant. Donc, je suis aussi artiste et j'étais à l'initiative de ce projet à Mermoz. Donc, vous dites que c'est pas possible dans le second arrondissement, même avec les délaissés laissés par Confluence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une volonté politique. C'est-à-dire que on le voit avec Bringuy à la Guillotière. Il y a très peu d'espace aussi à la Guillotière et ils ont réussi à investir un espace qui est, même s'il offre peu d'emprise sur le sol, ils ont réussi à lancer une dynamique qui se diffuse. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a au départ une volonté politique. Dans les trois projets qu'on a vus ce matin, les trois, je l'observe, sont découlent d'une volonté politique, même si les habitants... sont des sortes de masses critiques qui permettent aux politiques de s'engager. C'est important que les responsables ou les représentants de ces habitants prennent leurs responsabilités de représentants et s'engagent dans cette voie et trouvent les moyens de mobiliser le tissu vivant qui font qu'ils sont là, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair sur le fait que c'est... on ne peut pas se permettre, quand on a des responsabilités, de dire que c'est pas possible. Voilà, il y a de la vie, et à partir du moment où il y a de la vie, tout est possible.
Le monsieur avant.
Bonjour
à Yubramia, le petit jardin de la Soleil à Moulins. Une passe très rapide sur les trois exposés. D'un premier sentiment, il y a pas, première observation, il n'y a pas deux jardins qui se ressemblent. Donc un jardin, il est certainement dans son contexte. Par contre, il y a deux grandes familles. C'est soit un jardin d'une taille assez importante et qui se trouve à l'extérieur d'un périmètre urbain, ou alors l'inverse, hein, c'est-à-dire une défragmentation comme sur l'informatique. Des petits bouts de place à l'intérieur d'un périmètre urbain qu'on essaie d'exploiter d'une façon soit éphémère pour quelques années ou non. Alors, ce qui peut. J'ai été à 2-3 ans à Berlin, on a vu des associations à l'œuvre, justement dans des bâtiments, dans des lieux qui sont voués à se transformer en quelque chose. Mais pendant 5 ans, 10 ans, on les exploite pour les associations, pour faire. Évoluer les associations. La catastrophe, c'est quand ça se termine. C'est-à-dire que, donc, madame, tout à l'heure, elle évoquait une concertation donc, autour du devenir de la parcelle. C'est que ça, il ne faut pas y réfléchir 6 mois avant le changement de décision. Donc, ça, c'est pour les jardins qui sont dans un périmètre urbain. Pour les autres jardins, je. Enfin, quand on voit les paniers donc de salade, etc., tout alignés, bon, il y a on sent quand même l'effet originel d'un jardin. C'est-à-dire que les gens, ils jardinent spontanément, ils sont là vraiment pour jardiner, alors que dans la partie urbaine, enfin, dans un jardin, dans un interstice urbain, il y a plus le rôle social, le rôle fédérateur, c'est-à-dire retrouver un petit peu la spontanéité de revenir à la terre. Provoquer cette spontanéité. Et ça, c'est un outil comme un autre, je pense, pour, comme l'école, etc., pour que les gens s'agglomèrent autour d'un même sujet.
Merci. Oui, moi je voulais répondre simplement que la confluence à Lyon, c'est le prolongement de l'hypercentre. Et aujourd'hui, il y a une société d'économie mixte qui s'appelle la SPL à Lyon Confluence, qui gère donc tous ces 140 hectares derrière la gare de Perrache et qui ne met pas à disposition pour quelque motif que ce soit, je pense par exemple à des aires de jeu de ballon, aucun site parce qu'elle a trop peur de ne pas pouvoir les récupérer. Donc ce n'est pas uniquement les jardins partagés.
Nous travaillons avec la SPLA et dans les esquisses, il y a des réflexions pour mettre en place du compost, pour. C'est
oui.
Ensemble qu'il faut travailler.
Oui,
on
ne
peut
y a...
pas reporter la faute à l'autre.
Non, mais il y a un espace de jardin partagé, mais qui sera quand même limité.
Mais il ne s'agit pas d'être productiviste, je crois que ça, c'est.
Oui, oui. Non, mais je. D'accord, mais il y aura quand même 16 000 habitants.
L'intérêt de cet échange, c'est effectivement de lancer des questions et qu'on va prolonger cet après-midi. Il y aura tout l'espace cet après-midi pour continuer à approfondir ces échanges-là.
Moi, je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire. Le facteur, nous, de côté jardin, le coup de chance, c'est qu'on existe depuis 25 ans et que c'est un terrain privé qu'on loue à une personne âgée qui a dit, à l'époque, quand les trois fondateurs, le petit groupe de fondateurs, a dit OK, à condition que ça reste un jardin à vocation de maraîchage ou. Pas de construction dessus. Voilà. Et il y a eu convergence, mais aujourd'hui, après 25 ans, c'est plus tant la lutte pour la terre que une forme d'éducation aux nouveaux adhérents qui, pour le coup, reviennent à la terre. Première volonté des adhérents, c'est à jardiner, avoir des légumes et après le lien social. L'un va avec l'autre. Mais pour côté jardin d'un, ça c'est vraiment flagrant.
Oui, Mathieu Benoît Gonin, donc je suis responsable de jardin éthique, je suis jardinier animateur et bon, j'accompagne Saint-Étienne Métropole dans la politique de sensibilisation au compostage domestique et collectif. Donc je réponds à la première remarque de monsieur l'élu de la Confluence, excusez-moi, j'ai pas gardé votre nom, et puis je réagis aussi à la remarque des compostiers. D'une part, pour vous dire qu'en même temps que la consolidation de l'existence du réseau des jardins partagés, Il est en train d'émerger un réseau de structures sur le compostage, compostage collectif, semi-collectif, domestique, qui sera, je pense, soutenu par l'ADEME et la région Rhône-Alpes. On est en train de mettre ça sur les rails. Et conjointement, je veux dire qu'à Saint-Étienne, en tout cas, je pense qu'à Lyon, ça se fait quasiment systématiquement, les process de compostage domestique, semi-collectif,